Il y a trois choses qui sont importantes quand on parle du Brésil aujourd'hui. La première, c'est de pouvoir se dire qu'on a envie d'être solidaire de la situation de la société civile aujourd'hui au Brésil, solidaire de toutes les persécutions, toutes les atteintes aux droits humains, politiques, économiques, sociaux, culturels qu'on constate sur le terrain. Je crois que c'est un premier devoir que nous avons que d'exprimer cette solidarité avec un peuple qui souffre aujourd'hui dans une invisibilité et une impunité totale. La deuxième chose, c'est que nous sommes aussi responsables parce que beaucoup d'entreprises qui agissent aujourd'hui au Brésil avec des conséquences pour les populations et pour l'environnement sont des entreprises européennes, parfois françaises. Et on a un devoir de vigilance. La France est d'ailleurs dotée d'une loi de devoir de vigilance qui est entrée en vigueur en janvier 2019. Il est important aujourd'hui qu'on puisse entendre cette responsabilité des entreprises, qu'on en ait conscience. Et quand des entreprises s'approvisionnent en soja dans le cône sud, au Brésil en particulier, un soja qui est transgénique et qui va entraîner l'expulsion de paysans de leurs terres, eh bien, ce soja-là ensuite est utilisé pour l'alimentation animale, etc. en France, et elle se retrouve finalement dans nos assiettes. Donc on a une responsabilité, et une responsabilité via nos entreprises. Et enfin, je pense qu'on est concerné aussi parce que tout ce qui se passe aujourd'hui au Brésil, on a à pouvoir agir avec les organisations. Nous, comme CCFD Terres Solidaires, nous sommes en partenariat avec beaucoup d'organisations locales sur le terrain. C'est aussi de cette manière-là qu'on peut agir aujourd'hui en soutenant ces organisations, ces acteurs locaux qui essaient, eux, de promouvoir un autre type de société plus juste, plus solidaire, un monde inclusif.
On aura l'occasion d'y revenir. Vous pourrez peut-être nous donner un ou deux exemples de ces partenaires sur le terrain. Mais d'abord, pour aller un petit peu plus loin, vous pourriez nous résumer les défis majeurs qui se posent pour le Brésil en ce moment.
Il y a peut-être trois grands défis pour le Brésil aujourd'hui. J'ai envie de préciser avant que c'est à la fois des défis structurels, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas nouveaux. Depuis toujours, certains existent au Brésil et d'autres sont plus liés à l'arrivée de Jair Bolsonaro et donc au nouveau gouvernement d'extrême droite. La première chose, quand on regarde les défis aujourd'hui au Brésil, c'est cette espèce de dérégulation environnementale, d'extractivisme forcené qu'on peut retrouver sur les territoires. Le Brésil est un pays qui est marqué par une grande inégalité foncière. C'est le cas dans toute l'Amérique latine, mais c'est particulièrement vrai au Brésil, avec 45% de la surface rurale qui est dans les mains de moins d'1% de propriétaires. Donc cette inégalité-là, elle est forte et elle entraîne de forts conflits. C'est une équation assez simple, hein. Moins il y a de surface disponible, plus la pression sur les terres est forte. Et nous, ce qu'on constate au CCFD Terres Solidaires, c'est l'augmentation, l'exacerbation de ces conflits et des violences en milieu rural. Avec, comme je l'évoquais, une dérégulation environnementale. Ça veut dire la suppression de tous les conseils, de tous les organes qui sont liés aux politiques environnementales et qui ont disparu ces dernières années, et en particulier en 2019. Ce qui représente une grave menace à la fois pour l'environnement, mais aussi pour la santé des populations sur le terrain. On a de plus en plus de pesticides qui sont approuvés, etc. Donc ça, c'est le premier grand enjeu, il me semble, aujourd'hui au Brésil, ce qui se passe au niveau des terres, au niveau des territoires, au niveau de l'environnement. Un deuxième enjeu, peut-être, c'est le fait qu'aujourd'hui, on a un tissu social au Brésil qui est imprégné de violence, imprégné de discrimination, d'exclusion, avec une société qui s'est basée sur un racisme, sur une exclusion. Alors je dis qu'il s'est basé parce que c'est lié aussi à l'histoire du pays, à la colonisation, à l'esclavage aussi qui a marqué le pays. Mais ça s'exacerbe ces dernières années. Et le président Jair Bolsonaro a en particulier un discours misogyne, homophobe, raciste, sexiste, etc., avec des préjugés envers les plus pauvres qui fait qu'exacerber cette violence-là. Donc ça, c'est le deuxième grand enjeu, c'est comment est-ce qu'on travaille sur cette question de la violence. Et puis peut-être un troisième enjeu, plus politique, la gouvernance autoritaire qu'on constate aujourd'hui au Brésil, et là qui est vraiment directement liée au nouveau gouvernement de Jair Bolsonaro. Avec un gouvernement, on se rend compte qu'il y a une dimension très néolibérale dans les réformes qu'il impulse, notamment une réforme des retraites qui a fait beaucoup débat au Brésil en 2019. Une gouvernance qui est aussi très idéologique, c'est-à-dire que le gouvernement est parti en une sorte de croisade au niveau du système éducatif du pays où il a envie de désidéologiser toutes les écoles, donc ça veut dire une certaine mainmise sur les contenus des enseignements, etc., en voulant enlever tout ce qui pourrait paraître communiste ou de gauche. C'est lié aussi dans le domaine de la liberté d'expression, avec beaucoup de journalistes qui sont attaqués, une certaine censure, et de manière générale, une rhétorique qui est de l'ordre d'une guerre idéologique, où on a envie d'enlever tout ce qui pourrait être des références à l'éducation populaire, à l'émancipation, etc., des questions qui ont été fortes pour le Brésil. Et puis, cette gouvernance, elle est aussi très liée à... alors, avec un gouvernement qui est très militarisé, hein, on a 8 ministères sur 22 qui sont occupés par des militaires, et puis on a des militaires gradés un peu partout dans les hautes fonctions publiques, là, aujourd'hui, au Brésil. Et c'est vrai que cette gouvernance-là, elle fait peur aussi de cette présence de nombreux militaires, parce que le Brésil est passé par une période de dictature, comme tous les pays dans la région du Cône Sud. Et ça a été des épisodes tragiques, sanglants, qui ont éliminé toute intermédiation de la société civile. Donc, on a envie de faire mémoire de cette histoire-là pour être vigilant face aux dérives possibles d'un gouvernement qui soit trop militarisé. Et c'est d'ailleurs un gouvernement qui, depuis le début, a désigné les ONG, les mouvements sociaux, les organisations de la société civile comme ses ennemis. Ça, c'est une grande préoccupation parce que nous, c'est justement avec ces organisations avec lesquelles on travaille.
Pour terminer, Floriane Louvet, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple d'une action menée par l'un de vos partenaires dans ce pays, le Brésil, qui fonctionne ?
Je peux vous parler d'ASPTA, qui est une organisation qui travaille dans le secteur de l'agroécologie. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'enjeu qui peut exister sur les territoires au niveau de la terre, des conflits, etc. Cette organisation, elle accompagne des femmes, des jeunes, des populations paysannes dans le territoire de Borborema, donc dans le semi-aride du Brésil. J'ai envie de vous parler en particulier de l'accompagnement qu'ils font des femmes sur ce terrain-là. Donc c'est des femmes qui sont soumises à des grandes violences, parce que la violence en milieu rural envers les femmes est très forte, des femmes qui sont souvent très peu autonomes, qui restent dans leur maison, etc. Et cette organisation-là les accompagne pour sortir de cette situation-là et leur permettre de devenir actrices de leur propre vie en participant à des réseaux de marchés agroécologiques, des réseaux de production et de commercialisation. Et c'est tout un processus qui part depuis la maison, où ils accompagnent les femmes depuis leur environnement, où souvent elles sont cloîtrées, pour petit à petit participer à des réseaux, échanger avec d'autres femmes, participer à des organisations, découvrir qu'elles ont des droits et découvrir qu'elles sont des actrices aussi dans la société. Et ces femmes-là mène une grande marche le 8 mars, qui est la marche pour la vie des femmes et pour l'agroécologie, où chaque année il y a plus de 6000 femmes, pour dénoncer justement toutes les violences qu'elles peuvent subir, dénoncer toute la pression qu'elles peuvent subir aussi. Et je trouve ça assez incroyable comme ce partenaire sait partir d'un travail très local pour parvenir à un travail beaucoup plus national sur des questions de politique publique, des questions qui vont concerner tout le territoire brésilien.